tous les mercredis dès 13h, manque pas la playlist 2. Question de rajouter un peu de glucose fructose auditif à ton été.
Les enjeux de santé te préoccupent? À ta santé, c'est ton émission de radio qui t'en apprend davantage sur la santé globale en te faisant découvrir des experts, des professeurs, des étudiants et des travailleurs passionnés. Entre Planète et Stéthoscope, rejoins-nous un jeudi sur deux à 11h sur les ondes de CHIZ 94.3 et en balado-diffusion sur www.chiz.ca.
Savoir ce qui se passe chez toi, c'est le fun, mais t'as fait le tour pas mal vite, puis t'es peut-être curieux de savoir ce qui se passe ailleurs aussi.
Chez le voisin, c'est ton émission d'actualité internationale où on te garde les moments forts et inusités de la semaine qui se sont passés partout autour du globe. Animé par deux globe-trotteurs de salons attachants, on te promet de te faire voyager sans trop terminer.
Chez le voisin, c'est les mardis de 13h à 14h sur CHIZ 94.3.
The following program is disturbing.
Trash Crowd.
Mardi 20h.
CHIZ 94.3.
D'écoute!
Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de CHIZ 94.3 FM. Emmanuel Bernier au micro pour une émission sur le thème de Duplessis est encore en vie, un ouvrage qui a paru récemment chez Septentrion par l'auteur Pierre Berthelot. Alors, bonjour Monsieur Berthelot.
Bonjour.
Alors, merci d'être des nôtres aujourd'hui.
Ça fait plaisir.
Alors, vous avez effectué une maîtrise en littérature comparée à l'Université de Montréal sur précisément le thème de votre ouvrage et vous êtes également conférencier. Vous enseignez aussi à l'Université du Troisième Âge à Sherbrooke. On imagine le livre, c'est un peu comme une version augmentée de votre mémoire?
Oui, tout à fait.
OK. Votre livre est sorti cet hiver, si je me souviens bien?
Oui, au début de février, oui.
Oui, bon, puis il a été assez bien reçu. Même le premier ministre l'a vanté sur sa page Facebook.
Oui, oui, oui.
Qu'est-ce que ça fait d'être comme ça?
Ben, écoutez, mettez-vous à la place de quelqu'un qui sort un premier livre, puis que dès son premier livre, le premier ministre en parle. Je pense que même si on a des désaccords avec le premier ministre, ça fait quand même une très belle visibilité.
Ben oui, tout à fait. Alors, comment vous en êtes venu justement à travailler sur ce personnage de Maurice Duplessis?
J'ai presque envie de dire qu'il est venu me trouver dans mon sommeil. C'est presque ça. Non, en fait, tout ça remonte à 2012, donc la belle époque du printemps érable, dont certains se rappellent peut-être. Moi, donc, à l'époque, j'étais étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal. Et donc, je me cherchais un sujet de maîtrise. Donc, je m'intéressais beaucoup, au départ, à l'attachement des Québécois pour les figures de héros tragiques ou de martyrs. On en retrouve tout plein dans la littérature, dans le cinéma. Mon Dieu, François Paradis dans Maria Chapdelaine, Ovila Pronovo dans Les filles de Caleb, La petite aurore, enfant martyr, bon, pour ne nommer que celui-là. Et dans l'histoire aussi, il y a quand même beaucoup d'exemples. Bon, Chevalier de Lorimier, Louis Riel, Dollard des Ormeaux, René Lévesque. Donc, je cherchais au départ à m'intéresser à ces figures-là et au courant d'une discussion avec une amie, elle m'a suggéré de faire ça sur Maurice Duplessis. Alors, sur le coup, j'étais un peu interloqué. Duplessis, c'est l'inverse d'un martyr. C'est plutôt quelqu'un qui a martyrisé les autres dans nos souvenirs. Donc, les côtés négatifs sont très, très bien connus. Cette idée-là a créé un déclic chez moi. Et je me suis dit, on tient quelque chose ici. Et donc, je me suis intéressé à Maurice Duplessis. Je l'ai vraiment découvert à travers ses biographies et la grande série de Denis Arcand dont on va parler.
Et Bon, vous dites en introduction de votre livre qu'aujourd'hui, comparer quelqu'un à Duplessis, c'est un peu comme notre point Godwin, là, c'est-à-dire ce moment dans un débat où arrive la figure d'Hitler, là, même si, bon, je crois qu'il n'y a personne qui le compare vraiment de manière identique.
Non, non, c'est une métaphore. Mais,
exactement. Mais donc, une image de Duplessis qui est négative aujourd'hui, est-ce que c'était comme ça de son vivant?
Non, justement, c'est ce qui est intéressant. De son vivant, l'image de Duplessis était assez positive dans l'ensemble, je dirais, sans grande surprise, chez ses partisans, elle était très positive. Mais je dirais que c'était quelqu'un qui était extrêmement populaire. Et ça, c'est quelque chose qui est un peu difficile à concevoir. Parce que de nos jours, justement, du fait que c'est, hein, n'importe qui qu'on compare à Duplessis, c'est jamais pour faire un compliment, c'est toujours pour le dénigrer. Et donc, le fait de voir qu'il y a des gens qui n'étaient pas menacés avec des revolvers sur la tempe ou qui, de plein gré, aient voté pour l'Union nationale, pour nous, ça semble inconcevable aujourd'hui. Et pourtant, c'est bien arrivé. C'est pas seulement la corruption électorale qui peut expliquer les victoires de Duplessis. Ça, il faut vraiment ne pas connaître l'histoire pour affirmer ça. Mais Duplessis, en fait, lui, vient d'une grande famille de politiciens, des libéraux, des conservateurs. Son père était député à l'Assemblée législative, donc du temps de Honoré Mercier. Duplessis, donc, lui-même se lance en politique au début des années 1920. Donc, c'est la grande époque, le libéralisme triomphant de Louis-Alexandre Taschereau, qui est le successeur de Lomer Gouin. Et donc, Duplessis commence sa carrière dans l'opposition. Mais ce n'est pas encore la figure du dictateur qu'on a en tête. Au contraire, c'est quelqu'un qui est un bon catholique. C'est aussi l'image, c'est pas un bon père de famille parce qu'il n'est pas marié, mais c'est l'image du bon avocat, hein, à l'écoute de ses clients, à l'écoute de l'ouvrier, à l'écoute du fermier. Donc Duplessis, si vous me permettez, appuie sur tous les bons boutons pour se donner une très belle image auprès de ses électeurs. Et c'est cette image-là qui va le suivre, même dans les années 30, durant la Grande Dépression. Donc, Maurice Duplessis se présente comme un réformateur, donc opposé à, ironiquement, Taschereau, qui considère comme trop conservateur, donc là, au sens péjoratif, c'est-à-dire quelqu'un qui s'oppose à la nationalisation de l'hydroélectricité, à la réforme des lois agricoles, etc. Donc, Duplessis fait campagne avec cette image-là, un homme de la réforme, un homme qui veut changer, transformer la société étouffée par les libéraux. Arrive le milieu des années 30, il y a l'Action libérale nationale qui entre dans le tableau, qui est donc une équipe de gens, des libéraux dissidents qui décident de quitter le Parti libéral de M. Taschereau pour former une formation politique distincte. Duplessis s'allie avec ces gens-là, avec qui il y a beaucoup d'atomes crochus, mais surtout, Duplessis va beaucoup aimer l'image de nouveauté qui accompagne l'Action libérale nationale et que le Parti conservateur vraiment n'arrive pas à incarner. C'est vraiment pas l'image de la réforme. C'est pas les progressistes conservateurs qu'on a au Québec. Ouais. Et donc, Duplessis s'allie avec ces gens-là. Forme une opposition très forte à l'élection de 1935. Et à l'élection de 1936, Duplessis mène une commission d'enquête qui est l'équivalent de la commission Charbonneau de son temps. Alors là, on sort toutes les malversations du gouvernement libéral, mais là, depuis des années. Et Duplessis devient la grande vedette. Donc, c'est plus seulement l'ami de l'agriculteur, l'ami du travailleur, l'ami de la femme pauvre, etc. C'est aussi l'ami du chômeur, l'ami du citoyen indigné de voir son gouvernement s'en mettre plein les poches alors que les gens doivent subir les soupes populaires, le secours direct, etc. Et donc, Duplessis va, devenir le paratonnerre de toute cette popularité-là et va chasser du tableau le chef de l'Action libérale nationale et, au passage, récolter toutes les vedettes. C'est l'équipe du tonnerre de 1936 qui fait campagne autour de Duplessis. Et donc, l'Union nationale, qui se forme à ce moment-là, c'est un parti de coalition. C'est pas l'organisation d'un seul homme. Malgré que les partisans de Duplessis le présentent comme étant... Pardon. Malgré que les partisans de Duplessis le présentent comme étant le défenseur intrépide de nos droits, le sauveur de la race, etc. Donc, de tous des titres un peu ronflants. Mais c'est l'Union nationale, donc, qui est portée au pouvoir en 1936. Donc, c'est cette image-là qui va accompagner Duplessis dans un premier temps. Mais je dirais que il y a deux Duplessis. Le Duplessis qui donc est chef de l'opposition, très populaire, jusqu'à son arrivée au pouvoir. Et là, à partir de son arrivée au pouvoir, commence la mauvaise réputation de Duplessis. Duplessis qui prend un verre de trop, Duplessis autocrate, Duplessis qu'on compare à Staline, à Hitler. On n'a pas attendu qu'il soit mort. Hein? Déjà dans les années 30, on le comparait. Et donc, du fait de décisions, ben, déjà Duplessis en 1936 renie la quasi-totalité de son programme électoral. Les grandes réformes vraiment importantes, Duplessis ne les appliquera pas. Et donc, va perdre une très grande partie des soutiens des gens qui lui ont permis de prendre le pouvoir. Donc, ça va se retourner contre lui, si bien qu'à l'élection de 1939, c'est vraiment l'image d'un chef en déroute, d'un chef qui s'accroche au pouvoir et qui tente de se servir de la guerre comme un prétexte pour empiéter sur les droits des provinces, mais ce n'est pas tellement le thème qui va ressortir dans les autres arguments ou qui va recevoir l'adhésion des nationalistes, parce qu'il y a beaucoup de nationalistes qui faisaient campagne avec Duplessis en 1936, qui vont plutôt faire campagne avec les libéraux d'Adélard Godbout, qui vont jurer que si jamais le gouvernement fédéral, durant la guerre, imposait la conscription, bien, il allait démissionner. Donc, il prenait ces garanties-là, il croyait à ces promesses-là. Ça a été la surprise de leur vie quand ils se sont rendus compte que non, finalement, il y a eu quand même la conscription et que Adélard Godbout les a lâchés. Et donc, c'est à partir de 1944 que Duplessis revient au pouvoir et va vraiment consolider son image du défenseur de l'autonomie provinciale, donc le grand chef nationaliste québécois.
Et il y a toute une machine de propagande aussi qui était assez nouvelle au Québec à ce moment-là, qui est derrière, qui est un peu à l'origine aussi de cette image de Duplessis comme protecteur de la race, etc.
Oui, exactement. Donc, un professeur bien connu à l'Université Laval, Alain Lavigne, qui a très bien détaillé ça dans son livre sur Duplessis et le marketing électoral, justement. Donc, on a vraiment vu l'importation de méthodes de mise en marché à l'américaine. Donc, on faisait des campagnes un peu comme des boîtes à savon ou des automobiles. C'était le même type de publicité qu'on a organisé à grand déploiement. Et puis, à la belle époque où il n'y avait pas de loi sur les limites de dépenses électorales, alors on se gênait pas, on y allait à fond la caisse. Et puis, bon, tout le folklore du trafic d'influence, du patronage, comme on disait. Hein? Ah, vous avez voté Union nationale, monsieur, ben voilà une caisse de bière pour votre auto. Puis toi, mon petit garçon, t'as distribué des dépliants, ben voilà une barre de chocolat. Donc, ça se mélange, c'est resté bien vivant dans la culture populaire. Mais donc, Duplessis, avec sa machine électorale, va rester dans l'image des gens comme étant l'homme qui dirige un parti qui incarne le progrès matériel. Et ça, bien sûr, c'est très payant électoralement.
Il y a quand même une élite au devoir, à Cité libre, à l'Action nationale, qui est un petit peu moins chaude par rapport à Duplessis.
Ben, exactement. Donc, le progrès matériel, ça peut servir à justifier beaucoup d'abus aussi. Ça, on le sait de tous les temps. Et donc, évidemment, il y a beaucoup de gens qui vont reprocher à Duplessis de se faire le défenseur du nationalisme, mais d'en faire très peu, en fin de compte, de donner beaucoup, beaucoup de discours, mais de donner peu d'actes. Donc, en laissant des grandes entreprises étrangères ou canadiennes, anglaises venir s'occuper des grands projets de développement minier, par exemple au Québec ou dans le domaine forestier, etc., et laisser les emplois les moins bien rémunérés ou aucun poste de patron à des Canadiens français, ben, vraiment, ça va être extrêmement décevant du point de vue des nationalistes. Aussi, le fait de refuser de créer un système de santé publique alors que la très vaste majorité des Québécois ne pouvaient pas se payer de soins de santé, ce qu'on voyait avec le taux de mortalité infantile qui était absolument épouvantable au Québec, c'était presque le double, même la mortalité, je crois, dans le cas de la tuberculose. Il y avait 2 fois plus de gens qui mouraient de la tuberculose au Québec qu'en Ontario à la même époque. Donc, il y avait vraiment des retards qu'il fallait adresser, mais que l'Union nationale, pour beaucoup de raisons, refusait d'adresser, ce qui va rendre la Révolution tranquille nécessaire à un moment donné.
Et, bon, Duplessis meurt à Shefferville, justement, là, un des, disons, dans un des gisements là, qu'il a contribué à mettre en valeur, et donc le 7 septembre 1959. Et combien ça prend de temps là, avant de voir les premiers écrits, disons, biographiques, sur peut-être sans aller dans les grandes biographies qui vont venir dans les années 70, combien de temps ça prend pour voir les premiers écrits sur Duplessis, et puis quelle image de l'homme ils vont colporter?
Oui, déjà, il y avait une contestation plus forte de l'homme qui commençait à apparaître avant même sa mort, je dirais autour dans la suite de l'élection de 1956, qui est vraiment une des élections les plus controversées.
Oui, parce que bon, il y a le scandale dont j'oublie le nom, là, mais...
Du gaz naturel.
Oui, c'est ça, du gaz naturel, et les pères O'Neill aussi...
Oui.
Et, qui ont sorti des écrits assez critiques de Duplessis.
Oui. Donc, c'est ça. C'est dans les années 1956-1960, on a toutes ces choses-là. La grève à Murdochville aussi. Donc, il y a une série d'événements qui font que Duplessis est encore plus contesté qu'auparavant. Il y a une sorte de désespoir aussi qui gagne une partie de la jeunesse étudiante, une partie des intellectuels, des artistes. Donc, ce qui fait que dès la mort de Duplessis, malgré qu'il y a une sorte d'unanimité respectueuse qui se fait autour de sa mort, en 1960, comme il y a une élection qui s'en vient, le premier écrit où on va vraiment contester ouvertement l'image toute respectueuse des discours officiels de Duplessis, c'est la biographie, le livre « Le vrai visage de Duplessis » de Pierre Laporte. Donc, qui sort en mars 1960, qui est plutôt un portrait là, hein, en différentes facettes de l'homme, qui n'est pas très positif vraiment, mais pas si négatif que ça quand on le lit aujourd'hui. Quand on va voir ce qui vient par la suite, c'est quand même assez posé. Il va y avoir un autre livre publié en réaction à ça, qui est une série de vignettes aussi, un peu dithyrambiques, pour répondre à Pierre Laporte. Et on va avoir quelques livres comme ça. Il y a Leslie Roberts, par exemple, qui est un journaliste du Toronto Star, qui va écrire aussi une biographie sur Duplessis, mais qui se sert de Duplessis pour taper sur les Québécois, hein, avec un racisme de bonne aloi hein, qu'on retrouvait souvent dans les journaux de cette époque-là. Et aussi un livre très intéressant, ça du point de vue de la recherche universitaire, de Herbert Quinn, qui était une étude sur l'Union nationale, un peu influencée par la vision de Pierre Trudeau sur le Québec, donc quand même à prendre avec un grain de sel. Mais donc, il y a quelques livres qui vont être faits, mais c'est vraiment au début des années 60, avec donc le régime de la Révolution tranquille, où on va vraiment, avec la commission Salvas, bien sûr, qu'on va vraiment planter le clou que l'époque de Duplessis, c'était le Moyen Âge, la grande noirceur.
Puis ça, évidemment, est aussi influencé par l'émergence d'un néo-nationalisme au Québec aussi dans les années, à partir, disons, de la fin des années 50.
Ben oui, voilà. Donc, où on sentait que tout était possible, qu'avec les coffres de l'État étaient pleins, mais que donc là, on suivait pas seulement les discours de Duplessis, on agissait. Et c'est ce qui fait que la Révolution tranquille est une période aussi intéressante, c'est parce qu'elle a été caractérisée par beaucoup d'actions, pas seulement des beaux discours.
Parce que finalement, on passe de Duplessis à Jean Lesage, disons, d'un État assez minimaliste à un État très interventionniste aussi, puis auquel le néo-nationalisme va s'identifier.
Oui, et puis je dirais que la particularité du gouvernement de Jean Lesage, c'est qu'il a rassemblé autour de lui beaucoup de gens d'horizons différents. On l'a vu même dans ses ministres, mais dans les gens qui ont voté pour lui aussi. Tous ces gens-là, jusqu'à la mort de Paul Sauvé, ne pouvaient même pas concevoir qu'un jour un autre parti que l'Union nationale allait prendre le pouvoir dans un avenir rapproché. Donc c'est un peu une sorte de miracle, l'élection de 1960.
Et là, le premier vrai biographe, là, si on peut dire, de Duplessis, est l'historien Robert Humilly, qui était, qui était quand même un fidèle de l'Union nationale. Pourriez-vous nous en dire plus sur ce personnage assez intéressant, assez particulier de notre histoire?
Oui, assez haut en couleur, hein, ouais. Robert Humilly. Aujourd'hui, une des seules traces qui reste de Robert Humilly, c'est particulièrement décevant. À Québec, dans le quartier industriel, il y a une rue Robert Humilly qui est...
près du stade de baseball.
Là. Oui, c'est ça. C'est vraiment pas... c'est vraiment pas la plus belle rue de Québec, là, à mon avis, mais bon, c'est une des choses qui existe. Il y en a une à Lévis aussi, j'avais vu, qui est pas tellement plus intéressante. Mais bref. Robert Humilly, donc, je fais son histoire très rapidement. Né en Martinique, d'origine française, grandit dans une famille de militaire de père en fils, donc une vie marquée par l'existence coloniale. Son père qui meurt mystérieusement alors que Humilly est au début de l'adolescence, alors qu'ils sont en Indochine française, donc le Vietnam. Humilly qui va étudier en France par la suite, qui donc, lui, est très attiré par la vie des idées. En 1914, lorsque la guerre est déclenchée, Humilly est en train d'étudier le droit à la Sorbonne. C'est quelqu'un qui est un très bon élève à l'école. C'est quelqu'un qui vraiment est vu comme la future élite française. Donc, il va combattre durant la Première Guerre mondiale. Il y a vraiment le profil typique du nerd, là, hein? Robert Humilly, c'est le grand mince à lunettes, là. Donc, c'est pas toujours... on est très loin du soldat type de la Première Guerre mondiale. Et pourtant, il va bien se démarquer sur le champ de bataille. Il va revenir avec des blessures du champ de bataille, mais il va aussi revenir avec beaucoup de désillusions. Et une de ces grandes désillusions-là, c'est la démocratie. Pour Robert Humilly, la démocratie parlementaire, les partis, tout ça, ça n'a pas empêché la Première Guerre mondiale. Donc, il va s'attacher à des figures très autoritaires, très, très fortes, les chefs dominants, là, souverains. Notamment, il va s'attacher à la figure du maréchal Pétain, donc Philippe Pétain, qui n'était pas encore ce qu'il va devenir en 1940. Mais pour Humilly, ce type de chef-là, ça va vraiment le séduire. Et il va rechercher dans tout le reste de sa vie le même type de figure politique. Donc, il va la retrouver ensuite en allant militer dans un mouvement monarchiste. Donc, Humilly militait pour le retour de la monarchie en France, l'Action française. Et le chef de l'Action française, c'était Charles Maurras, donc un grand écrivain provençal qui a une très, très grande influence. Il y a même des gens comme Marcel Proust qui adhéraient à l'Action française. Donc, c'était un mouvement qui recueillait quand même beaucoup d'appui. mais qui va être évidemment très contesté lui aussi. Hein, des étudiants, des militants socialistes, des syndicats de travailleurs qui vont être farouchement opposés à ça. Il n'était pas question de revenir à la monarchie en France. Et donc, le mouvement va être fortement réprimé, ce qui va forcer Robert Rumilly donc à peut-être changer de carrière. Et il y a un ami qui va lui dire: mais va au Québec, mon vieux, c'est la France d'avant la Révolution, tu vas trouver ton compte. Donc Robert Rumilly a suivi ce conseil-là, il est venu au Québec et il est tombé en amour avec le Québec. C'était pas exactement une France d'avant la Révolution, il a bien fini par découvrir, mais il y avait un côté vieille France que lui a retrouvé, mélangé à ce qu'il décrivait comme un dynamisme américain qui l'a énormément séduit. Et donc, Robert Rumilly est devenu historien un peu sur le tas, c'est-à-dire en voulant mieux connaître le Québec, il en est venu à écrire des livres et écrire principalement des livres d'histoire. Je dirais un style d'histoire très, très romancé, donc pas du tout l'histoire de méthode quantitative qu'on fait aujourd'hui avec tout un appareil donc pédagogique, des notes de bas de page, des tableaux, donc des lectures critiques. Rumilly est tout à fait dans son époque.
Il fonctionnait beaucoup aussi dans le genre de la chronique, hein, quelque chose de très chronologique.
Oui, oui, donc c'est ça. Donc c'est pas vraiment, on cherche pas vraiment les causes profondes. On cherche plutôt à raconter comment ça s'est passé. Donc, on est vraiment plus près du récit que du pourquoi des choses. Et donc, Rumilly, au Québec, va s'attacher aux grandes figures fortes comme ça, comme Charles Pétain ou Philippe Pétain, c'est-à-dire Charles Maurras l'était en France. Donc, il va s'attacher à Camillien Houd, le maire de Montréal, Henri Bourassa, et bien sûr, Maurice Duplessis, de qui il va devenir là un collaborateur de longue date. Ce ne sera pas son confident, mais ça va être certainement un conseiller de l'ombre inestimable. Ce qui va faire que dans les années 60, ça va être l'homme tout désigné pour écrire la biographie sur Duplessis.
Ben on va aller en pause musicale et publicitaire, puis on va y revenir par la suite. Alors, on se transporte en musique en 1936, une pièce qui a été écrite à peine quelques jours après, c'est-à-dire, bon, en tout cas, qui a été entendu pour la première fois quelques jours après la première victoire de Duplessis, la chanson « Les belles-mères » de la Bolduc, donc chantée par la Bolduc elle-même, et André Taillefer. Alors, on vous revient dans quelques minutes.
Me demande pourquoi je suis triste. Ma belle-mère est rendue à la maison. Elle est off et rien ne lui résiste. Quand elle parle, elle a toujours raison.
Si t'étais pas mou comme une chique, elle se mettrait pas le nez dans tes chaudrons. À ta place, je prendrais une brique. J'y en donnerai 5-6 coups sur le citron.
Tu connais pas ma belle-mère, elle ne fait pas rien qu'à la regarder. Elle a de l'air d'une vieille sorcière, on dirait d'une vieille fille enragée.
Puisqu'elle a si mauvais caractère, si t'avais pas de l'air aussi tatin, j'aurais dit mille fois dans de tes affaires, j'aurais montré de quel point tu chaussais.
Tout cela, c'est bien facile à dire. S'il y en a qui veulent se marier, faites pas comme moi, pauvre martyr. Croyez
croyez-moi, je suis ben mal à manger.
Dans la vie, chacun a ses misères. Moi, je prends la vie du bon côté. Si tu veux, pour oublier ta belle-mère, tous les deux, nous allons surlutter. Comme c'était hier sa fête, elle m'a demandé pour l'embrasser. Comme elle prise et qu'elle sent la vieille pipe, j'ai manqué de mourir empoisonné.
Veux-tu que je te donne la manière, si tu veux bien t'en débarrasser? Mais dis donc une bonne pilule dans sa théière, elle viendrait plus jamais t'achaler.
Vous écoutez chez 94.3 FM à Québec.
Salut, ici Alex Baillargeon et je vous retrouve maintenant les vendredis à Chiz pour le deuxième service du Réchaud. Le Réchaud, c'est les grands titres de l'actualité commentés à ma manière qui ont retenu mon attention et que j'ai gardé pour vous au chaud sur mon Réchaud. On parle d'insolites, de télé, de techno, de cinéma et bien sûr, des tendances du web de la semaine. Vendredi dès 11h, syntonisez le deuxième service du Réchaud sur les ondes de Chiz 94.3.
Du lundi au vendredi, 16h à 17h30, on se retrouve sur les ondes de Chiz pour parler d'art et de culture. Avec des entrevues exclusives, des chroniques originales et des reportages sur le terrain, je m'engage à vous partager le meilleur de la culture émergente québécoise. Chérie, j'arrive tous les jours de la semaine, de 16h à 17h30, sur les ondes de Chiz 94.3.
Suivre l'actualité à tous les jours, c'est de la grosse job. Mais t'as quand même besoin d'un bon sujet de conversation sur ta terrasse pour pas avoir l'air trop bête devant ta date Tinder. Bonne nouvelle! Guillaume Bédard t'explique les sujets chauds de la semaine tous les samedis de l'été à partir de 17h. C'est tout ce que t'as besoin de savoir avant de sortir.
Sur une distance de 20 verres, la coupe Vanier au bout du pied.
Frappé solidement par Wild du côté gauche. Ouais. Circuit! Les Capitales qui reprennent les devants!
Pour ton sport local, écoute Chiz 94.3.
De retour à 3600 secondes d'histoire pour discuter de l'ouvrage Duplessis est encore en vie avec son auteur, Pierre Berthelot. Alors, on parlait de cette première grande biographie que vous avez étudiée sur Duplessis, qui est celle de Robert Humilly, hein, qui est un peu comme une sorte d'éminence grise, en quelque sorte, du régime de Duplessis. Donc, en quelle année elle est sortie, cette biographie de Duplessis?
Bon, cette biographie-là sort en 1973. Au même moment où il y a le scandale du Watergate qui éclate aux États-Unis, grosso modo.
Oui, avec le Vietnam et tout, là, on était quand même dans un contexte particulier.
Oui, voilà.
Et, bon, comment... on disait que Humilly aimait bien la forme très chronologique, là, en forme de chronique. Alors, il remonte, est-ce qu'il commence à l'enfance de Duplessis ou est-ce qu'il remonte plus loin?
Robert Humilly place Duplessis dans le sillon de grands chefs dans l'histoire du Québec, un peu dans le même genre donc que lui, c'est-à-dire des chefs très autoritaires, très charismatiques aussi, qui vraiment dominaient l'époque où ils ont été en activité. Et donc, il remonte à un peu avant l'enfance de Duplessis avec Monseigneur Laflèche, qui était l'évêque de Trois-Rivières. En fait, même au début de sa biographie, Humilly décrit Monseigneur Laflèche comme étant une sorte de dictateur patriarcal ou une espèce de dictateur sympathique. Donc, c'est l'image de base qui va revenir un peu avec Duplessis, hein, une espèce de chef à la fois autoritaire puis chaleureux, là.
Donc, en partant de la flèche, j'imagine, là, il arrive à sa famille et ensuite à l'enfance de Duplessis.
Oui, oui, donc voilà. Et pour Rumilly, en fait, c'est ça, c'est une chronique. Donc, on suit vraiment de manière chronologique. On parle assez peu de Duplessis en tant que tel. On parle surtout des événements contemporains des années que Rumilly décrit. Mais chez Rumilly, en fait, Duplessis, tout est prédestiné chez lui. Il est né pour devenir premier ministre, en gros. Duplessis qui naît donc, comme je disais tout à l'heure, dans une famille de politiciens, mais qui est bon élève à l'école, qui ensuite va en droit, se fait élire député en 1927, là après se démarque comme député, devient chef de l'opposition. Donc c'est vraiment une trajectoire toute en ligne droite chez Robert Rumilly. Et donc de Duplessis. Et donc, il n'y a jamais de doute quant au succès de Duplessis. Si bien que même durant la défaite de Duplessis à l'élection de 1939, tout de suite, Rumilly nous rappelle « Ah non, mais Duplessis, il consolait sa sœur, puis il disait « Fais-toi-en pas, je vais revenir encore plus fort qu'avant. » Donc, c'est ce qui est arrivé. Mais donc, c'est toute l'idée qu'on peut remonter aux sources, à l'origine d'un grand personnage pour trouver des traces de sa réussite future. Donc, Rumilly écrit toujours des biographies de cet ordre-là. Pour lui, il y a une sorte d'ordre naturel du monde qui se fait comme ça. Un peu comme les rois, hein? Les rois sont nés pour devenir des rois. Ils naissent dans une famille royale. Donc, c'est un peu pour cette raison-là que je disais dans mon livre que Duplessis, en fait, c'est le roi du Québec pour Rumilly.
Donc, c'est un peu une biographie en forme d'agiographie, finalement. Duplessis a assez peu de défauts.
Oui, c'est ça. Duplessis, c'est comme le roi soleil. Mais le soleil, il est au-dessus de tout le monde. Donc, il n'est pas sur le même pied d'égalité que tout le monde. Il est au-dessus de tout le monde, puis il est beau en haut, mais on ne peut pas l'atteindre. Donc, c'est une sorte d'idéal, Duplessis.
Et là, pas longtemps après, sort une autre biographie qui est, je pense, plus connue quand même de nos jours, qui a eu un bon succès public aussi, qui est celle de Conrad Black. Et c'est une biographie qui va peut-être plus proche du personnage.
Oui, 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 tout à fait. Donc, Conrad Black, on le connaît aujourd'hui surtout à cause de ses déboires avec la justice. Hein, c'est le grand magnat de la presse. S'est intéressé à Duplessis au courant des années 60, parce que Conrad Black, lorsqu'il se lançait en journalisme, s'intéressait à l'Union nationale. Il a travaillé un peu avec Daniel Johnson père. Il écrit des discours. Et donc, il va faire la connaissance de Robert Rumilly au début des années 70, Conrad Black, je résume. Et Conrad Black, qui lui voyait d'un très mauvais œil l'espèce d'unanimité qui se formait autour de la Révolution tranquille puis des résultats positifs, lui, au contraire, voulait remettre en question la portée révolutionnaire de la Révolution tranquille. Et donc, il va se mettre dans l'idée, en même temps que Robert Rumilly, de rendre justice à Duplessis. Donc, pendant que Robert Rumilly, au début des années 70, écrivait sa propre biographie, il va se mettre à aider Conrad Black à rédiger un mémoire de maîtrise en histoire à l'Université McGill sur la correspondance de Maurice Duplessis. On peut la consulter aujourd'hui. Fort heureusement, le mémoire de maîtrise de Conrad Black a été numérisé. Allez pas lire ça, ça fait 700 pages, là. Quand même. Mais donc, c'est à partir de ce mémoire de maîtrise-là que Conrad Black va faire sa biographie. Et donc, vraiment pour Conrad Black, en fait, la vraie Révolution tranquille, c'est l'époque de Duplessis. Pourquoi? Parce que pour lui, ben, on l'a vu dans les années 60, c'était la contestation étudiante, c'était le désordre dans les finances publiques, les déficits qui explosaient, les syndicats, le mouvement souverainiste. Donc, tout ça, c'était des choses négatives, puis il fallait un retour à l'ordre, là. Il fallait revenir aux bonnes vieilles méthodes qui avaient fait leur preuve, c'est-à-dire du temps de Duplessis.
Donc, Black, il était un peu comme Rumilly, il aimait les hommes forts.
Oui, ouais. Tout à fait. C'est un admirateur de, du général de Gaulle, de Churchill, Abraham Lincoln, Franklin Roosevelt et même plus récemment, Donald Trump. Parce que,
ah oui?
Oui, parce que, bon, après son petit séjour en prison, M. Black, donc il continuait à rédiger, c'est vraiment un auteur très prolifique, a rédigé une biographie de Donald Trump en 2018 et l'année suivante a reçu un pardon présidentiel.
Ah, comme par hasard.
C'est bien payant.
Oui. Et quel genre de source il utilisait, Black?
Oui, alors là, ça c'est intéressant. La biographie de Conrad Black est très, très inspirée de celle de Robert Rumilly. Parce que les deux biographies ont été écrites un peu en collaboration, un peu de façon collaborative. Les entrevues qui ont été menées avec des anciens politiciens, des anciens évêques, des anciens adversaires de Duplessis, beaucoup aussi, ont été menées par Rumilly et Black en même temps au début des années 70. Aussi, une grande partie des archives citées par Conrad Black sont en fait des livres de Robert Rumilly, l'histoire de la province de Québec. Même Maurice Duplessis et son temps, la biographie de Rumilly, va servir de source à Conrad Black. Donc, en fait, on peut dire que la biographie de Robert Rumilly, c'est la source principale de toutes les grandes biographies, de tous les principaux travaux sur Duplessis qui ont été faits par la suite. Et Conrad Black au premier rang. On peut donc dire qu'il y a une très grande influence, mais il y a quand même beaucoup de différences, notamment Rumilly, donc, qui admirait Duplessis, mais qui taisait beaucoup les côtés plus négatifs. À l'époque, dans les biographies, on ne parlait pas tellement de la vie privée, la vie amoureuse, l'alcoolisme, les problèmes sexuels, tout ça. On ne touchait pas à ça. C'est les Américains qui vont nous décoincer beaucoup. Et comme on va le voir par la suite avec Pierre Godin, par exemple, dans sa biographie de René Lévesque, donc là, il y a des choses sur la vie privée de René Lévesque qu'on ne retrouvera pas chez Conrad Black sur Duplessis, forcément, sauf peut-être une certaine malformation génitale qui, là, va faire beaucoup scandale.
Et comment elle est reçue, cette biographie de Conrad Black?
La biographie de Conrad Black, d'abord, elle est écrite en anglais au départ. Hein? Ça, c'est très important. Donc, on s'adresse d'abord à un public anglophone. Et on a un point de vue anglophone sur le Québec, sur Duplessis, ce qui est tout à fait différent de Rumilly. Et donc, elle est très bien reçue. C'est quoi, 10, 12 000 exemplaires, je crois. Donc, c'est un très grand succès de librairie. Mais il y a quand même des gens qui vont beaucoup critiquer, notamment Robert Rumilly, qui va critiquer Conrad Black d'avoir détourné le sens de certaines choses. Mais en fait, Rumilly va être scandalisé de voir certaines sources que Black va sortir où Duplessis considérait Rumilly simplement comme un propagandiste. Donc, les deux vont arrêter de se parler à la suite de ça. Mais dans l'ensemble, malgré la controverse, malgré la contestation, l'ouvrage de Conrad Black, c'est vraiment un effort donc, de biographie, de synthétiser la vie de l'homme, mais aussi de relancer, en quelque sorte, l'Union nationale pour la rendre à nouveau pertinente dans les années 70.
Et pourquoi vous dites que Black a une conception qui est plus quantitative que qualitative du règne de Duplessis?
Oui, voilà. Donc, Conrad Black, lui, un de ses buts, donc, de remettre en question le côté révolutionnaire de la Révolution tranquille, c'est de montrer que, au contraire, Jean Lesage et l'équipe du Tonnerre n'ont pas tout créé le Québec moderne par enchantement en 1960. Et ce qui est tout à fait vrai quand on regarde quantitativement, et Conrad Black le démontre bien, c'est la partie la plus convaincante de son livre. On voit le côté homme d'affaires qui ressort beaucoup. Du point de vue développement économique, il y a vraiment un développement fulgurant qui s'est fait dans les années 40 et 50. Là, la question est de savoir qui a profité de ce développement économique. Est-ce que c'est vraiment l'ensemble des Québécois? Alors là, ça fait encore débat aujourd'hui. Mais donc, Conrad Black veut vraiment se concentrer sur l'aspect économique, je dirais, et la quantité de routes, d'écoles, d'hôpitaux qui ont été construits. En même temps, les interprétations que Black tire de ces données quantitatives-là peuvent être contestables et ça, j'en discute dans le livre.
Et le prochain travail biographique que vous avez étudié, le prochain et dernier, en fait, est d'un tout autre genre. En fait, c'est la série, la fameuse série Duplessis, qui a été écrite par Denis Arcand. Comment un cinéaste s'est ramassé, en bon français, à écrire cette biographie qui a été transposée au petit écran?
Oui, c'est ça. En fait, Denis Arcand, s'est fait connaître au cinéma d'abord par des documentaires. Et puis dans les années 60-70, surtout 60, lui faisait des documentaires qu'on jugeait engagé. Donc, lui, traitait beaucoup des questions sociales. Mais, il va faire « On est au coton », qui est un documentaire sur les employés du textile. Il va faire un autre documentaire sur l'élection de 1970, Québec, Duplessis et après. Donc, Denis Arcand avait cette image-là d'un cinéaste engagé. Et quand va venir donc à Radio-Canada au milieu des années 70 le projet de créer une série sur Duplessis, c'est lui qu'on va aller chercher. C'était, je cite Mark Blanford, « le seul au Québec capable d'écrire un scénario historique qui avait de l'allure.
» Blanford qui était le réalisateur.
Qui était le réalisateur, ce n'était pas Denis Arcand, voilà. Mm-hmm. Et donc, c'est un projet alimentaire, en gros.
Et Arcand avait aussi une formation d'historien.
Voilà, Denis Arcand, donc qui avait étudié à l'Université de Montréal, qui avait fait une licence en lettres et histoire, et qui avait étudié donc avec les grands professeurs de l'École historique de Montréal, qu'on va appeler, donc Michel Brunet, Guy Frégaud, Maurice Séguin surtout. Donc il va être très très influencé par ce regard-là cynique, hein, on a souvent caractérisé comme étant cynique. Moi, je dirais désenchanté ou pas romantique, en tout cas.
Ouais, plus pragmatique.
Oui, voilà.
Et Arcand va être aidé aussi dans sa recherche par Jacques Lacourcière, hein, qui est décédé récemment, justement. Oui. Et sur quelles sources ils vont se baser? Est-ce qu'ils vont se baser sur Black et Rumilly ou ils vont aller voir ailleurs?
Donc oui, c'est ce qui est intéressant. Denis Arcand m'a confié qu'il avait lu les biographies de Rumilly et de Black. Et donc, on retrouve encore une fois Rumilly et Black qui sont réinterprétés dans la série. Mais aussi, il y a beaucoup des travaux de Jacques Lacourcière dans les débats de l'Assemblée législative de l'époque. Les journaux aussi, beaucoup l'Action catholique, Le Soleil de Québec, Le Devoir, La Presse. Donc, beaucoup des journaux de l'époque. Denis Arcand va même rencontrer Auréa Cloutier. L'ancienne secrétaire de Duplessis. Jacques Lacourcière aussi va la rencontrer. Mais Denis Arcand va la rencontrer une seule fois. Mais moi, on m'a confié que Auréa Cloutier aurait aussi aidé Jean Lapointe, donc qui incarne Duplessis dans la série, à se préparer pour le rôle. Donc, Jean Lapointe a été très bien encadré pour. C'est ce qui le rend aussi bon dans la série, d'après moi.
Oui, tout à fait. Et puis. Son Duplessis, finalement, est-ce qu'il est différent de celui des deux autres biographes? Ou...
Oui, donc je crois que le Duplessis de Denis Arcand est un Duplessis beaucoup plus près de ce que les gens ont pu connaître à l'époque. Donc les gens qui ont vécu dans les années 20 à 50 auraient pu croiser le Duplessis incarné par Jean Lapointe. C'est un Duplessis moins grandiose, peut-être moins ouvertement machiavélique que Conrad Black le présentait. C'est pas un Duplessis particulièrement sympathique hein, chez Conrad Black. Il est très futé, très intelligent, mais le côté humain attachant que Jean Lapointe réussit très bien à incarner, ça c'est un peu différent. Mais c'est aussi un Duplessis qui est très marqué par la vision tragique justement de l'histoire du Québec, donc des Maurice Séguin et autres. Donc c'est un Duplessis qui pratique le pouvoir d'une certaine façon parce qu'il n'y a pas d'autre choix, parce qu'il veut le pouvoir, parce que c'est mieux que ce soit lui plutôt qu'un autre. Puis il y a un peu l'idée justement du martyr, de porter la charge historique du peuple québécois sur ses épaules, mais en même temps de façon très, très humaine et très imparfaite. C'est ce qui le rend aussi attachant.
Puis on imagine que la télévision aussi, bon, on sait que une série télévisée, bon, c'est quand même une forme différente que d'une biographie écrite. Est-ce que Arcand est obligé de prendre des libertés avec la réalité historique pour raconter son récit?
Il y a certains raccourcis qui ont été effectués dans le temps. Et je dirais, c'est surtout justement compte tenu des contraintes de la télévision. On ne peut pas filmer à tous les endroits, il y a des limites de budget. On ne peut pas tout présenter, les personnages en coulisses. Donc, on simplifie. Il y a parfois 5 ou 6 personnages différents qui sont joués par un seul pour nous faire comprendre une problématique. Donc, je dirais qu'il y a vraiment des raccourcis qui sont là. Il y a peut-être des choses de l'ordre du détail. Moi, on m'a confié que le directeur du journal Le Soleil, qu'on voit dans le premier épisode, il y avait une mèche de cheveux blancs, normalement, Henri Gagnon. Et la femme qui avait préparé la biographie de ce personnage-là avait trouvé une photo. Puis, bon, la production a pas mis ça dans les cheveux du comédien. Et donc, là, on parle vraiment de détails. Mais la série est extrêmement fidèle. Même le papier peint dans la suite de Duplessis au Château Frontenac qui était identique à celle qu'il y avait dans la vraie chambre de Duplessis. Donc, il y a un très grand souci du détail dans cette série-là.
Et cette série-là, elle a quand même été bien reçue. Encore aujourd'hui, on en parle souvent.
Oui, oui, je crois que c'est une des meilleures séries, peu importe ce qu'on pense de Duplessis. C'est une des plus grandes séries de la télévision québécoise, qui a été, même à l'époque, extrêmement bien reçue. Moi, on me racontait dans une taverne de Trois-Rivières, les soirs, les mercredis soirs où la série jouait, il n'y avait plus d'enfants qui jouaient dans les rues, tout le monde allait écouter ça, puis là, tout le monde voyait Auréa Cloutier à l'écran, puis arrêtait de parler, il était transi. Donc, il y a eu des gens, par contre, qui ont contesté, puis je dirais que c'était des gens qui étaient plutôt dans la nostalgie de Duplessis. Donc, Robert Rumilly, notamment, il va même y avoir une plainte devant le CRTC. On va essayer de bloquer les rediffusions de la série, mais même encore aujourd'hui, sur DVD ou à RTV, on pouvait l'écouter il y a quelques années. Donc, une très bonne série.
Et parallèlement, c'est production biographique. La mémoire de Duplessis, elle évolue aussi avec le temps, avec la conjoncture politique. Bon, on sait que les années 70 sont aussi marquées par une, disons, quasi-disparition de l'Union nationale, qui va disparaître officiellement, je crois, uniquement dans les années 80. Mais comment ça influence ça, l'évolution de cette mémoire de Duplessis?
Bien, c'est ce qui est intéressant. Il y a eu vraiment une mode dans les années 70, une mode médiatique du fait de parler de Duplessis. C'était très à la mode de faire des documentaires, des émissions de radio, des entrevues. Il y a beaucoup d'anciens députés qui ont écrit leurs mémoires qui parlaient de Duplessis, justement. Mais ça ne s'est pas concrétisé sur le plan politique, justement, parce qu'à l'élection de 1981 et l'élection de 1973, l'Union nationale est disparue de la carte électorale. Et l'Union nationale, donc, va disparaître complètement dans les années 80. Il n'y aura pas de retour au conservatisme, malgré que c'était la grande mode dans les années 80. Mais il va y avoir quand même des débats autour de la mémoire de Duplessis, des débats très intéressants. Malheureusement, des débats très hermétiques, des débats très spécialisés, très loin du grand public, ce qui va faire qu'il va y avoir une évolution du côté des spécialistes de politique ou d'histoire ou de sociologie, et très peu d'évolution du côté de la mémoire collective.
Bon, encore aujourd'hui, c'est un personnage qu'on se plaît à détester, mais en même temps qui est fascinant, parce que c'est quand même un personnage tout à fait coloré. Mais bon, comme on a dit, qu'il ne fait pas l'unanimité. Lorsque le premier ministre a parlé de votre livre, on en a vu qui ont mal réagi, parce que le premier ministre je crois qu'il a fait aussi d'autres références par le passé à Duplessis, parce que là, il fallait pas se comparer à Duplessis, parce que c'est un personnage négatif. Mais bon, c'est quand même très intéressant comment les politiciens actuels réactualisent cette mémoire des personnages du passé pour se légitimer, en quelque sorte, là.
Oui, 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 tout à fait. Puis bon, on voit bien dans Duplessis ce qu'on veut bien voir, hein? On va projeter sur lui c'est...
Un peu comme René Lévesque, René Lévesque qui est mis un peu à toutes les sauces par toutes les familles politiques.
Ben voilà, exactement. Même Jean Charest, soi-disant, avait un poster de René Lévesque dans son bureau à l'époque où il était au fédéral. Bon, c'est un peu cocasse, là.
Ouais. Et ben, vous l'avez souligné, il y a quand même la recherche scientifique aussi. Bon, sans faire un bilan historiographique qui serait un peu fastidieux, est-ce qu'elle est encore vivante, cette recherche sur Duplessis?
Oui, tout à fait. Et je dirais que c'est là où... On rentre, je trouve, dans la période la plus intéressante de ce qui se fait sur Duplessis. C'est que maintenant, on a affaire à ce que l'historien que j'aime beaucoup, Xavier Gélina, appelle le paraduplessisme. C'est-à-dire que là, on s'intéresse à beaucoup de figures qui ont été des contemporains et des contemporaines de Duplessis, mais qui nous fait découvrir toute l'époque dans sa richesse et dans sa complexité. Donc, des femmes, mais des artistes aussi, ou toutes sortes de personnalités donc, qui ont marqué la vie publique, culturelle ou sociale au Québec de ce temps-là. Je pense aux travaux de Louise Bienvenue, par exemple, sur les mouvements de la jeunesse catholique. Ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des très belles choses qui s'en viennent aux éditions du Septentrion cet automne sur d'autres figures contemporaines de Duplessis qu'il faut absolument redécouvrir. Bon ami Alexandre Dumas qui va écrire là-dessus. Donc, à surveiller cet automne, ça va être très intéressant.
Ben oui. Puis, dernière question un petit peu de... Bon, on n'a pas de boule de cristal, mais comment vous pensez que la mémoire du duplessisme va évoluer dans les prochaines années, décennies?
Ah, alors là, ça, c'est la grande question. Est-ce qu'on va un jour sortir de l'image de la grande noirceur? Moi, je crois qu'il faudrait d'abord commencer par finir la Révolution tranquille. Et donc, le parachèvement de la Révolution tranquille nous permettrait d'avoir un regard beaucoup plus apaisé sur l'époque de Duplessis et, je dirais, de cette manie du jugement contre laquelle Marc Bloch nous mettait tous en garde. On va peut-être pouvoir s'en délier un peu. Mais tant que la question nationale, donc est-ce que le Québec va continuer à faire partie du Canada de façon permanente? Et si oui, ça veut dire qu'on va réformer le Canada pour accommoder le Québec et favoriser son développement? Ou bien alors, on va quitter le Canada et on va faire autre chose? Tant que cette question-là ne sera pas réglée et qu'on va donc nier l'importance de cette question-là, eh bien, moi, je crois qu'au contraire, on va se rapprocher de figures comme Duplessis.
Ben, très intéressant. C'est ce qui met malheureusement déjà fin à notre émission. Ah. Alors, je vous remercie, Pierre Berthelot. Ça fut très intéressant.
Ça a été un plaisir. Merci.
Et puis, ben, on se quitte en musique avec, certains reconnaîtront sûrement l'extrait, le final du quatuor L'Empereur de Haydn qu'on entend au début de chaque épisode de la série Duplessis. Alors, ceux qui connaissent la série vont le reconnaître à coup sûr. Alors, ben, je remercie les auditeurs d'avoir été avec nous ce soir et on se dit à la prochaine.
Ici Marie-Joseph Corriveau. J'avoue que je trouve ma sentence bien sévère, mais au moins, grâce à ma cage, j'arrive à capter 3600 secondes d'histoire les mercredis à 18h30 sur les ondes de Chiz 94.3 FM.
Tu t'intéresses à la scène musicale actuelle? Tu veux découvrir de nouveaux artistes? Une excellente façon d'y arriver est de plonger dans l'univers d'un nouvel album récemment ajouté sur nos ondes. Chiz te recommande avec son émission Plein son sûr d'écouter un album en entier. Plein son sûr tous les vendredis de 10h à 11h à Chiz 94.3.
À vite de découverte, tu veux être informé de tout ce qui se passe dans la ville de Québec et sur les ondes chiziennes? Visite le www.chiz.ca. Tu y trouveras